place publique.
La démocratie est poussée dans ses derniers retranchements du côté de Moutiers et de Peseux. Les recours semblent peser plus lourd que les bulletins de vote. Alors le système a-t-il montré ses limites? Analyse tout à l'heure, dans un instant même, avec un expert en sciences politiques et droit constitutionnel. Les Biennois sont divisés sur le projet de contournement ouest de leur ville prévu d'ici 2035. Une partie de la population se mobilise pour qu'un projet alternatif soit pris en compte. Problème, la Confédération, le canton de Berne ne l'entendent pas de cette oreille. Est-ce qu'un vote pourrait débloquer la situation? On en débat après 18h30. Enfin, les jours des foires commerciales sont-ils comptés, y compris dans la région? L'annonce hier de la fin du comptoir suisse repose la question. Quelles recettes pour résister, notamment à la concurrence du web? On en parlera avec le professeur de marketing François Courvoisier.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. La défiance règne en maître à Moutiers et à Peseux. Leurs citoyens sont appelés aux urnes ce dimanche. Que ce soit pour les élections municipales en prévôté ou pour le nouveau vote sur la fusion du Grand Neuchâtel à Peseux, des recours sont déjà brandis pour invalider ces scrutins, chaque camp accusant l'autre de tricherie et saisissant la justice. Alors, trop de démocratie tue la démocratie. On en parle avec vous, Bernard Voutat. Bonsoir.
Oui, bonsoir à vous.
Vous êtes professeur de sciences politiques et de droit constitutionnel à l'Université de Lausanne. Alors, en regardant ce qui se passe à Moutiers depuis des mois et à Peseux depuis 2 ans, est-ce qu'on n'assiste pas à une forme de dérive de la démocratie?
Je pense que le terme de dérive est probablement un peu excessif. Je voudrais dire que ces deux cas ne sont pas isolés. La jurisprudence dans le domaine est abondante. Il y a des dizaines et des dizaines de recours sur des cas relativement analogues. C'est vrai que dans un cas comme dans l'autre, on est dans une situation relativement polarisée, mais d'une manière générale, je trouve plutôt sain qu'il puisse y avoir des procédures permettant de garantir la liberté de vote. Et en démocratie, peut-être qu'il faut un arbitre. L'arbitre, ici, ça peut être le juge, et il me semble plutôt sain qu'une instance judiciaire puisse vérifier le respect de ce principe.
Je vous comprends bien, hein, si les voies de recours sont des garanties pour la démocratie, est-ce que quand même, en termes de climat politique aussi, on n'observe pas malgré tout un cercle vicieux, une forme d'engrenage qu'il semble difficile d'arrêter avec des recours, contre des recours et des scrutins qui sont menacés avant même leur tenue?
Oui, alors vous avez raison de parler d'engrenage. Les procédures judiciaires pourraient bien s'enliser. Probablement qu'il faudra pas mal de temps pour sortir de l'issue de Moutiers. Nous verrons un peu de ce qui se passe ce prochain week-end. Mais en même temps, ça fait partie de la règle du jeu. Je crois que il est tout à fait normal, même si les procédures sont un peu longues, que une instance judiciaire puisse se prononcer sur ces recours. Mais en effet, on peut parler d'engrenage.
Mais ça ne suffit pas à calmer les esprits, que la justice donne son avis. Il suffit de voir les critiques qui sont adressées à la préfète du Jura bernois, accusée d'être le bras administratif du canton de Berne, d'être juge et partie en quelque sorte.
Alors il est vrai que toute décision judiciaire peut dans un premier temps polariser les protagonistes du conflit, les uns se louant de la décision, les autres la fustigeant. Et c'est vrai qu'une décision judiciaire, dans un premier temps, ne peut que susciter des oppositions, en tout cas des appréciations politiques. À moyen terme, je dirais que le fait que la justice soit saisie aura peut-être pour effet de calmer les esprits. Le maire de Moutiers a du reste annoncé qu'il attendait que justice soit rendue dans une procédure qui ira probablement jusqu'au tribunal fédéral. Et on peut dire que si une décision judiciaire polarise dans un premier temps, elle évite peut-être aussi que les oppositions se manifestent de manière violente dans la rue. Donc, au fond, la controverse va être confinée à l'arène judiciaire, ça pourra peut-être calmer les esprits.
C'est peut-être la loi des séries, mais en 2016, une votation a été invalidée dans la commune vaudoise de Tolochna. Le tribunal fédéral a estimé alors que les autorités ont été trop partiales durant la campagne. Les autorités communales, encore elles, sont aussi mises en cause à Peseux pour ne pas avoir empêché la tenue d'un stand à l'entrée du bureau de vote. Et enfin, à Moutiers, vous en avez fait référence, le maire, qui est accusé d'avoir mené une propagande jugée entre guillemets inadmissible avant le vote communaliste. Alors pour Peseux et Moutier en particulier, est-ce que de votre avis, les autorités ont clairement fauté, on ne sait plus faire campagne correctement?
Alors, il est difficile de commenter cette décision de la préfecture. Je voudrais tout d'abord dire que je ne la considère pas comme complètement arbitraire, même si on peut soupçonner la préfète du fait qu'elle est élue par le peuple d'avoir, au fond, pris une décision partiale. En réalité, elle est fortement argumentée en droit. Toutefois, je considère que les faits qui sont retenus sont particulièrement ténus. Considérer deux prises de position comme une propagande inadmissible ayant finalement faussé le scrutin me paraît alors dans ce cas-là tout à fait excessif. Et si on lit correctement l'arrêt, on voit bien aussi que la décision est prise du bout des lèvres. Je cite juste cet extrait. La préfecture a considéré que la possibilité d'un résultat différent en l'absence de ces irrégularités n'apparaît pas à ce point minime qu'elle ne puisse pas sérieusement entrer en considération. On a une triple négation et qui caractérise le fait que l'argumentation en droit me semble pour le moins ténue en l'espèce.
Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau communal, il y a des choses qui choquent plus qu'au niveau fédéral? Le fait, par exemple, que des autorités, justement, entrent de plein pied dans la campagne?
Alors, vous avez tout à fait raison. À ma connaissance, le tribunal fédéral n'a jamais invalidé une votation au niveau national. La question s'est pourtant posée à quelques reprises, en particulier il y a un peu moins d'une dizaine d'années à propos de la réforme de la fiscalité, où il était apparu que l'information préalable du Conseil fédéral était manifestement erronée. Le tribunal fédéral n'a pas pris sur lui d'invalider ce scrutin pour différentes raisons juridiques. Mais d'une manière générale, il est vrai que le tribunal fédéral se montre particulièrement sévère et pointilleux pour les votations qui se déroulent dans les communes ou dans les cantons. Et je dois dire que la jurisprudence, pour abondante qu'elle soit, traduit aussi des différences ou des oppositions dans ce qu'on appelle la doctrine juridique, c'est-à-dire les discussions des professeurs de droit qui sont très divisées, certains estimant que le tribunal fédéral se montre beaucoup trop restrictif, d'autres estimant qu'il ne se montre pas assez restrictif. Pour moi, je considère que là, les jugements, y compris celui de Peseux, sont particulièrement discutables. Le principe est que les autorités doivent pouvoir intervenir dans les campagnes politiques. Or, il me semble que ce principe est renversé dans les décisions dont vous parlez, et je le regrette.
Après Tolochna, Peseux, Moutier, est-ce qu'on ne peut pas craindre quand même, c'est un peu de la spéculation, mais qu'on assiste à un gros virus de recourite aiguë dans toute la Suisse?
Alors, je ne crois pas. Franchement, je n'ai pas de statistiques, mais comme je vous le disais en préambule de l'émission, il y a dans ce domaine-là des dizaines et des dizaines d'arrêts et des recours depuis même le 19e siècle. Et je ne crois pas que l'on assiste désormais à une judiciarisation croissante dans le domaine de l'exercice des droits politiques. Il se trouve que là, on est dans des situations qui sont particulièrement polarisées. Et il faut rappeler aussi, par exemple, s'agissant de la question jurassienne, que le tribunal fédéral a fait revoter dans le district de Lauffon. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est inédit.
D'autant moins dans l'arc jurassien ou la région proche. Merci Bernard Vouta d'être venu nous faire part de votre éclairage sur ces situations donc à Moutier et Peseux. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne soirée.
Merci à vous. Bonne soirée.
Place publique. Gabriel Devec.
Et on se rend à Bienne, où le débat sur l'axe ouest repart de plus belle. Il s'agit de ce projet autoroutier à plus de 2 milliards de francs, un chaînon manquant de la 5, censé désengorger le trafic au centre-ville dès 2035. Un sondage récent paru dans le journal du Jura indique qu'une majorité d'habitants à Bienne et de son agglomération ne veulent pas du projet officiel. La population semble préférer un projet alternatif qui supprime notamment les jonctions au cœur de la ville. Problème, la Confédération, le gouvernement bernois, de même qu'une majorité du Grand Conseil bernois, ne soutiennent pas cette variante jugée inefficace. Alors, comment sortir de l'impasse? On en débat avec nos deux invités, à commencer par vous, Roland Gourtner. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coprésidente du comité de citoyens, maintenant ou jamais Axe Ouest à 5, et jusqu'à récemment conseiller de ville pour le mouvement citoyen Passerelle. Et Urs Scheuss est avec nous également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de la direction du comité de l'association Axe Ouest Pas Comme Ça, et vous êtes aussi conseiller de ville de Bienne pour les Verts. Alors, l'opposition va croissante dans la population, on le perçoit bien, Roland Gourtner. Comment faire la sourde oreille dans ces conditions et ne pas en tenir compte d'une certaine manière ?
Oui, je pense pas qu'il faille faire la sourde oreille. Il faut discuter avec ses opposants et leur expliquer la situation telle qu'elle se présente dans la réalité. Voyez-vous, j'aimerais préciser une chose. Je suis un ardent défenseur de l'écologie et de la mobilité douce, comme M. Scheuss d'ailleurs. Et c'est au nom de ces valeurs que je soutiens le projet officiel de la Confédération. Maintenant, je trouve que c'est un bon projet et j'aimerais bien que les opposants puissent reconnaître aussi les avantages de ce projet. Son tracé est entièrement souterrain, ce qui est donc bon pour l'environnement, la qualité de l'air. Il possède deux jonctions, ce qui permettra de délester les quartiers du trafic automobile. Ça signifie aussi moins de nuisances, plus de sécurité pour les piétons et les cyclistes. Il permettra au transport public de mieux circuler, de réaménager des rues et des places dans les quartiers, de réaliser même une zone verte d'1 kilomètre de long en lieu et place de la route de Berne.
Oui, mais Roland Gourtner, est-ce qu'une alternative n'a pas de sens ? Est-ce que la suppression, par exemple, de jonctions au centre-ville, est-ce que des aménagements plus importants ne mériteraient pas d'être étudiés quand même ?
Vous parlez de quels aménagements, j'entends ? Il y a des aménagements qui justement, la réalisation de la branche ouest va permettre ces aménagements.
Des jonctions, on parle des jonctions au centre-ville.
Oui.
Est-ce que les supprimer ne serait pas une bonne idée pour éviter trop de nuisances?
Ah non, absolument pas. Non, absolument pas. Parce que alors, vous avez, n'est-ce pas, les opposants proposent un tunnel de 5 km de long. Un trou de souris, on entre à un bout, on ressort à l'autre bout, 5 km plus loin, sans aucune possibilité d'y accéder ni d'en sortir. Donc, ça ne servira à rien du tout. Donc, les gens vont continuer de traverser les quartiers pour rejoindre soit le centre-ville, soit la région du Faubourg du Lac, etc.
Urs Scheuss, vous l'entendez, hein, ce projet alternatif que vous proposez ne semble pas, en tout cas, convaincre Roland Gourtner, on le comprend bien. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une alternative crédible ? Est-ce que vous oubliez de souligner les qualités du projet officiel, comme on l'appelle ?
Bon, ce projet, il faut le dire, c'est le projet alternatif. Ça, c'est un compromis. Le projet officiel avec les deux jonctions en plein ville, ça, c'est une planification du dernier siècle. Et pour le comité, on a toujours dit, vu le changement du comportement, de la mobilité, il y a toujours plus de personnes qui partagent la voiture, il y a toujours plus de personnes qui habitent en ville, qui n'ont pas besoin de voiture, qui renoncent aussi à la voiture, donc il faut tenir compte de ce développement. Et pour nous, le projet alternatif qu'on propose, c'est un compromis. C'est un compromis car on construit quand même l'autoroute. C'est pour le réseau autoroutier suisse, mais on renonce aux deux jonctions. Et ce sont surtout ces deux jonctions qui sont contestées par la population. Et il faut aussi savoir que en tout, il y aura, si toutes les jonctions seront réalisées, 10 jonctions dans la région biennoise. Et je trouve, et aussi le comité trouve, que c'est vraiment trop pour une ville de 56 000 habitants.
Léon Gourtner, dans un pays où le compromis est roi, est-ce que cette contestation, vous ne devriez pas l'entendre ? En tout cas, les porteurs du projet ne devraient pas l'entendre ?
Oui, on l'entend bien entendu, mais je crois qu'on se fait beaucoup d'illusions du côté des opposants. On vient d'ouvrir la branche Est, n'est-ce pas, avec ses deux jonctions. Elle fonctionne très bien, tout le monde en est très content, et elle produit les effets escomptés, c'est-à-dire elle délaisse les quartiers. Elle permet des aménagements et donc les gens respirent dans certaines rues. Bien entendu, les routes de raccourdement sont plus fréquentées, ça c'est normal. Mais j'aimerais surtout dire que c'est pas un projet du siècle dernier, la branche ouest. C'est un projet qui a sans cesse été aménagé en fonction des situations actuelles. Et puis, on se fait aussi beaucoup d'illusions si on pense que le trafic automobile va diminuer. Depuis 1960, il s'est multiplié par 5. Jusqu'en 2040, il va encore augmenter de 20%. Donc, il faut absolument faire quelque chose pour éliminer enfin ces bouchons, ces embouteillages sur l'axe qui va de la route de Berne à la route de Neuchâtel en passant par la rue du Débarcadère pour les générations futures. Donc, c'est un projet qui tient compte des prévisions de trafic en 2040.
Ours Choice, vous n'avez visiblement pas les mêmes prévisions.
Pas du tout, mais il faut aussi savoir qu'il y a toujours plus de jeunes qui renoncent aussi à la voiture. Donc, il y a vraiment un changement des comportements de mobilité. Et c'était toujours, et ça montre aussi les expériences des dernières années, des dernières décennies, que si on construit des routes, ça va toujours attirer plus de voitures. Donc, ça va dans la mauvaise direction avec des nouvelles autoroutes.
Alors, on ne va pas vous mettre d'accord. Oui,
pardon?
Pardonnez-moi, excusez-moi. Vous dites qu'il n'y aura pas forcément une croissance et que si on construit plus, on amène plus de trafic.
Ça, oui. Donc, d'une part, il y a un développement qui va plutôt dans la direction d'une diminution du trafic auto avec l'automobile. Et en outre, il faut promouvoir ce développement. Et ensuite, il faut aussi voir qu'on ne conteste pas l'axe Est que M. Courtois a mentionné. Là, on voit ça a effectivement délesté les quartiers, mais ce qu'on voit aussi maintenant, ça n'a pas produit le chaos qu'on a toujours prévu pour, par exemple, la place Guido Müller. Donc, aussi avec les nouvelles chiffres qu'on a, les nouvelles expériences, avec la réalité des effets de l'axe Est, il faut en tout cas réexaminer le projet actuel et aussi le projet alternatif. Si avec le projet alternatif, ça pourrait être une bonne solution.
En tout cas, la ville de Bienne prône le dialogue et estime que jamais un projet de cette envergure ne peut se faire sans l'accord de la population. Roland Gourtner, comment l'interpréter autrement, cette déclaration, qu'un encouragement fait aux opposants, apporté aux opposants, pour qu'ils fassent entendre leur voix et qu'ils y croient?
Oui, mais écoutez, donc moi je suis pas contre les sondages et contre la consultation de la population, mais il faut bien voir que le résultat qu'a donné le dernier sondage du Bielefeld-Blatt, il est normal, on pouvait s'y attendre au vu de la propagande intensive qu'a mené le comité Axe-Ouest, pas comme ça. Alors que les partisans du projet officiel, c'était silence radio de ce côté-là.
Et donc une erreur.
Maintenant,
c'est donc une erreur de communication de la part des partisans
du
projet.
Une erreur de communication, oui, de la part des autorités. Oui, oui, absolument, ce qui est totalement incompréhensif. Le silence du conseil municipal en particulier, qui a toujours accompagné ce projet pendant une vingtaine d'années. Moi-même, j'étais membre de la commission d'accompagnement du conseil de ville et je connais ce projet. Très bien, j'ai très bien suivi.
C'est pas un signe qu'il n'y croit plus, incroyable. Le conseil municipal? Est-ce que c'est un signe, en fait, qu'il lâche manière implicite le projet?
Oui, mais c'est un petit peu un manque de courage politique. J'entends d'assumer ce qu'il a réalisé, ce qu'il a accompagné et approuvé jusqu'à présent, devant une opposition qui a été récupérée par le Parti des Verts et le Parti Socialiste. Et donc, on peut comprendre un petit peu les réticences de ce point de vue-là. Mais j'en veux personnellement, moi, aux autorités de manquer de courage politique, de défendre une variante qui est très prometteuse. On le voit maintenant avec la branche ouest, dont M. Scheuil a l'air très content.
La branche est.
La même chose, les mêmes effets vont être déployés pour la branche ouest. Mmh. Et je ne comprends pas M. Scheuil, qui... On a lancé ensemble avec M. Scheuil l'initiative des villes qui vise justement à réduire le trafic automobile en ville et à promouvoir la mobilité douce. Et c'est ce qui se passe avec la réalisation du contournement de Bienne. Je ne comprends pas qu'on puisse combattre un projet qui a de telles qualités.
Urs Scheuss.
Le projet officiel, c'est pas vraiment un délestage des quartiers, c'est un, c'est, ça va, il y a des quartiers qui auraient moins de trafic, mais il y a d'autres quartiers où il y a plus de trafic, donc c'est plutôt un déplacement.
Non, pas des quartiers, les routes d'accès, les routes de raccordement.
On laisse peut-être une choice,
c'est un déplacement du trafic. Donc, il y aura certainement une surcharge, par exemple, de la place des Récios. Par exemple, pour les transports publics, ça va être le chaos.
Et ensuite, le chaos, c'est un drame.
Si, si. Parce que là, il y a chaque heure, il y a chaque...
Oui, mais on trouve des solutions pour tout, monsieur.
Il y a un bus.
On trouvera des solutions.
Il y a un bus qui traverse la place des Récios. Oui, oui. Et on n'a pas, on n'a toujours pas une solution pour ça. Et ensuite, je trouve la réaction du conseil municipal très courageuse, car mais actuellement, il est la seule autorité qui conteste le projet officiel. Donc,
non, alors ça, c'est pas ça. Ah non, ça, c'est courageux.
Un non, mot quand même, un mot quand même.
Il n'a pas pris position, non, pas du tout.
Il s'est opposé sur des points en particulier. Urs Scheuss, un mot quand même sur ce dont a parlé Roland Courtner et qui est en fait une des nouvelles de cette semaine, à savoir la proposition d'organiser un vote consultatif. Est-ce que ça pourrait être la solution pour légitimer le projet ou son refus?
En principe, je crois qu'on n'a pas vraiment besoin d'une votation consultative, car le résultat sera probablement le même. On a eu des pétitions, on a eu des manifestations, on a eu ce sondage, et tout ça a montré que la population ne veut pas une autoroute avec deux jonctions en pleine ville. Donc, je crois.
Attendez, on s'entend plus.
Pardon. Et en plus, les autorités cantonales. Ils ont eu des années du temps pour informer la population. Il semble que ça n'a pas convaincu la population. Donc,
Pour conclure, Roland Gourtner, un moratoire, c'est-à-dire qu'on met sur pause, on met sur pause ce projet, la planification de ce projet, et on essaie de se mettre d'accord sur une variante qu'on ne connaît peut-être pas encore, mais on essaie de réconcilier ces deux positions. Est-ce que ça vous semble souhaitable?
Non, absolument pas. Il n'y a pas 36 solutions. Ou bien on réalise ce projet officiel maintenant, ou bien c'est le statu quo. Le statu quo, ça veut dire que dans 20 ou 30 ans, nous voilà case départ. Est-ce qu'on veut vraiment ça pour la ville de Vienne? Donc, moi, je pense que faire un moratoire, c'est très risqué parce que la Confédération a 2,2 milliards à disposition pour le canton de Berne, pour la région de Bienne. Et si on ne fait rien, ben ces 2,2 milliards ils vont partir dans un autre canton. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut laisser échapper cette chance de promouvoir la qualité de vie et le développement de Bienne?
La question est posée. Le mot de la fin à vous, Urs Scheuss. Est-ce qu'au fond, vous ne souhaitez pas faire traîner le tout, quitte à faire échouer tout projet d'autoroute?
Je ne crois pas qu'on va échouer tout projet de route. Il faut se souvenir d'un autre grand projet suisse. C'était la centrale nucléaire de Kaiserhaus. Là, les autorités ont aussi dit il faut ce projet, il faut cette centrale nucléaire. Finalement, on a renoncé à ça et ça a ouvert la voie pour le tournant énergétique. Et là, je crois aussi si on renonce à ce monstre projet, on ouvre la voie pour une mobilité plus durable, une mobilité pour l'avenir.
Et le débat va continuer. Merci messieurs d'avoir participé à Place Publique, Roland Gourtner et Urs Scheuss. On vous souhaite une bonne soirée à tous les deux.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Place Publique.
Le comptoir suisse, c'est terminé. Le groupe Ballois MCH, organisateur de l'événement, l'a fait savoir hier. Il n'y aura pas de 100e édition de ce mythique rendez-vous lausannois. Les foires de Zurich et de Bâle passent à la trappe, elles aussi. Un nouveau concept national pourrait voir le jour à la place de ce comptoir. Cette annonce intervient à l'heure où d'autres foires commerciales d'envergure sont sous pression. Baselworld, qui devra se passer des marques du Swatch Group, le concurrent genevois du SIHH, salon de haute horlogerie, qui a lui aussi subi des désistements. Et dans la région, les foires commerciales résistent plutôt bien, même si certains commerçants tirent la langue. Alors, sans comparer des pommes avec des poires, on va quand même se demander si la fin du comptoir suisse sonne comme le chant du cygne des foires commerciales traditionnelles, petites ou grandes. Avec vous, François Courvoisier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes professeur de marketing à la Haute École de Gestion Arc. Alors, comment expliquer qu'une manifestation d'abord aussi emblématique que le comptoir suisse, qui a attiré le siècle dernier, on va dire, jusqu'à 1 million de visiteurs, périclite après bientôt 100 ans d'histoire?
Alors, il y a plusieurs éléments que je pourrais mentionner. Peut-être que cette foire est devenue un petit peu obsolète. Elle a eu énormément de succès à l'époque où il y avait moins de foires, il y avait un choix peut-être moins grand de pour comparer des produits. Les gens se déplaçaient aussi plus volontiers, c'était un événement un petit peu en Suisse romande. Les loisirs étaient aussi un petit peu moins grands. Je me souviens que mes grands-parents allaient régulièrement, ils ramenaient parfois un meuble ou un objet, et ils allaient boire quelques verres avec des connaissances. C'était un petit peu là. The place to be de l'époque de nos parents et grands-parents. J'ai l'impression que c'est devenu un petit peu obsolète, c'est aussi devenu un petit peu trop grand, avec non seulement à boire et à manger, mais des vaches, de l'électroménager, des meubles, etc. Et que ces grandes foires qui sont trop généralistes et puis trop, entre guillemets, bateaux, eh bien, leur temps est passé. On en vient à des foires qui sont plus ciblées, et probablement aussi pour distinguer dans le succès ou l'insuccès de certaines foires, celles qui sont destinées aux professionnels et puis celles qui sont destinées au grand public. Je prends un exemple de foire professionnelle qui fonctionne très bien. C'est une des plus grandes foires du monde, je pense, en termes de surface et du nombre de visiteurs professionnels. C'est la foire de Hanovre, qui est absolument incontournable pour les personnes qui sont dans la technique, la machine outil, l'électronique et tous ces secteurs-là.
Et on a des exemples pas plus loin qu'à Moutier, avec évidemment le SIAMS, et puis l'EPHJ aussi à Genève.
Tout à fait, le SIAMS qui a commencé modestement à la patinoire de Moutier, a construit ensuite des tentes pour s'agrandir, puis finalement le bâtiment, le Forum de l'Arc, qui commence à devenir un petit peu petit. À Genève, l'EPHJ, l'environnement professionnel de l'horlogerie et joaillerie, a aussi beaucoup de succès. Bon, Genève est bien placée au niveau des transports, c'est clair, pour faire venir des professionnels. Mais ce qu'il y a, notamment dans les foires professionnelles comme le SIAMS ou l'EPHJ, c'est que ce ne sont pas que des vitrines, ce sont des lieux où il y a aussi des événements, il y a des conférences, il y a des forums, les professionnels se rencontrent. Et là, c'est très, très important que dans le professionnel, parce qu'il faut créer cette relation de confiance entre l'acheteur et le vendeur. Alors que les foires, la ZUSPA, la MOBA ou le comptoir suisse sont un petit peu des vitrines, on se promène, oui, mais il y a peut-être d'autres loisirs plus attrayants.
Et que dire de Baselworld ou du SIHH ou encore du Salon de l'Automobile à Paris, qui a aussi dû faire avec l'absence de pas mal de grandes marques, avec des désistements? Est-ce que c'est le même mal qui touche Baselworld, le Salon de l'Automobile de Paris, que celui qui a mis fin au comptoir suisse? Rien à voir? Ou il y a quelque chose de profond en commun?
Alors, je ne pense pas que ce soit le même mal pour le comptoir suisse, la MOBA, la ZUSPA. On est plutôt au niveau des consommateurs qui sont un peu lassés et qui ont d'autres formes de loisirs ou qui commandent aussi certains produits sur Internet. C'est clair, le e-commerce fait une concurrence certaine. Pour le salon de l'Auto de Paris ou Baselworld, je pense que là, il y a une tendance à la décentralisation, c'est-à-dire que les marques préfèrent, aussi il y a une raison de coût, ça leur coûte extrêmement cher, un salon où on fait venir ces distributeurs du monde entier, préfèrent décentraliser, organiser des événements plus régionaux ou plus locaux sur leur marché, et d'aller plutôt au-devant des clients dans une démarche de push que de les attirer à eux dans une démarche de pull. Donc, pour moi, c'est pas le même phénomène, les foires grand public et les foires professionnelles.
Et vous avez dit aussi le mot magique, peut-être, la décentralisation. On le voit qu'au niveau local ou régional, les foires commerciales, on va dire traditionnelles, semblent plutôt résister assez bien, mis à part évidemment l'exemple du salon Modac à la Chaux-de-Fonds. Même si les commerçants, oui, en fait, ne sont pas toujours euphoriques, ça tient. Il y a toujours des milliers de visiteurs qui viennent l'espace de quelques jours s'informer, regarder les commerces.
Oui, alors je pense que dans notre région, particulièrement sur Neuchâtel, le salon Expo du Port, d'abord il a changé de nom, il est devenu Newport Expo, ce qui fait peut-être un petit peu plus tendance. Et puis il cherche non seulement à avoir des exposants qui présentent des produits intéressants, mais cherche aussi à garder les visiteurs avec des animations, avec de la musique, avec cette année pour la première fois il y avait aussi de la danse et d'autres choses. Les gens, le grand public cherche des événements aussi de distraction plus que des vitrines.
Mettre la peine quand même à attirer des commerçants de la région, hein, on le voit pour Newport, c'était l'avis de certains commerçants, de la peine quand même, lors d'un événement de ce type, à convaincre les commerçants du coin de venir.
C'est vrai qu'il y avait une proportion plus grande de commerçants qui n'étaient pas du coin que de commerçants de Châtelois. Et je prends un autre exemple d'un salon qui est, à mon avis, en plein développement. Je ne connais pas les chiffres au niveau financier, mais en tout cas en fréquentation et en augmentation, c'est le Ciné, le salon de l'immobilier, où non seulement on peut trouver la plupart des artisans, des entreprises de construction de la région, mais cette année il y avait un événement qui a attiré la foule, c'était le débat avec les rois de l'immobilier.
On s'en souvient bien.
Et l'humoriste Thomas Wiesel. Donc là, les gens sont venus parce qu'il y avait un show, et pas simplement pour aller regarder, éventuellement à changer leur fenêtre ou acheter un store ou une véranda.
Et pour ce qui concerne la foire du Jura, la foire de Moutier, qui franchement résiste plutôt bien, est-ce que vous pensez qu'à terme, elles vont pouvoir se maintenir face à la montée de l'e-commerce ?
Alors, probablement, enfin, je leur souhaite, allant plus loin que simplement la vitrine du commerce local, mais la possibilité de rencontres, de discussions, d'événements, de shows, de passer un bon moment. Si on sort de la région, je pense aussi à la foire du Valais, à Martigny, qui cartonne. Et puis là, on a vraiment toutes les couches de la population, y compris les politiciens, surtout en période électorale. C'est vraiment the place to be. Les gens qui ne sont pas à la foire du Valais, ils n'existent juste pas.
Donc la bonne échelle n'est pas forcément simple à trouver, hein. Il y a des exemples et des contre-exemples.
Oui, je pense qu'il vaut mieux être petit et ciblé. Quand je dis petit ou de taille moyenne et ciblé, la foire, les produits du terroir à Bulle, alors c'est ciblé par rapport à un secteur. On est dans la gastronomie, des produits régionaux, produits du terroir. Et puis il y a aussi localement, maintenant on arrive en pleine période des marchés de Noël, qui marche très très bien, comme celui de Montreux, ou des événements plus petits, ça peut être une brocante, ça peut être une bourse aux jouets. Je pense qu'il faut être assez ciblé, et puis à taille humaine, et éviter trop de grandiloquence, de grandeur, et puis surtout d'être hautain par rapport à ses clients et consommateurs.
Et on en termine avec ce conseil, François Courvoisier, qui sans doute aura trouvé des oreilles attentives. On le rappelle, hein, vous êtes professeur de marketing à la Haute École de Gestion Arc. Merci d'avoir répondu à nos questions dans Place Publique. Bonne soirée.
Merci de votre appel. Bonne soirée. Au revoir.
Au revoir. Place Publique.